7-0-0, vous êtes connecté sur Move.
Move 13h-13h30.
Move 13 Actu.
Alex Nassar.
Info, culture, société, sport, jeux vidéo, tous les jours hein, de 13 à 13h30 sur Move. Move 13 Actu. Toute l'actu de ce jeudi 24 mai. Comment ça va la team Move 13 Actu?
Ça va.
Move 13 Actu en direct à la radio bien sûr, mais aussi en vidéo sur Facebook Live. Connectez-vous sur la page officielle Move Radio. Au programme aujourd'hui, Lise, le RGPD, c'est pas une insulte, hein, qui entre en vigueur demain.
Oui, le règlement général sur la protection des données qui devrait, comme son nom l'indique, mieux protéger nos données perso. Je vous explique tout ça.
C'est très compliqué.
Un peu. Hein,
on va se le dire tout de suite. Ce sera dans le focus du jour. Guérin, comme tous les jeudis, toute l'actu de nos amis les stars, mais les stars de la politique aujourd'hui.
Ouais. On a le numéro 1, Emmanuel Macron, dont la vie ressemble un peu à un jeu vidéo en mode cheaté un peu.
Ouais.
Hein, tout va trop vite. Et Trump aussi, qui a fait une mise à jour Twitter. Et les règles ont changé pour lui. Mm-hmm. Et puis on ira faire un tour en Italie, parler de carbonara crème, pas crème, non c'est pas vrai.
Ce sera dans la Zoom Bactu Pi-Politique, de plus en plus concept hein, tout ça. Et puis du sport bien sûr, avec Greg, suite de l'affaire Adrien Rabiot.
Oui, Adrien Rabiot qui a refusé son statut de réserviste en équipe de France. Didier Deschamps s'est exprimé sur le sujet hier après-midi et tu vas voir que Rabiot a employé une méthode assez hardcore pour prévenir le sélectionneur de sa décision.
Ce sera dans le trash talk du jour. Et puis Max aussi est avec nous en mode jeu vidéo.
Eh oui, Detroit Become Human.
Alors
c'est vachement bien.
Ben oui, Max est avec nous parce que l'un des jeux les plus attendus de l'année sort demain sur PS4. C'est Detroit Become Human, tu l'as dit Max. Et on a un invité de choix pour en parler aujourd'hui dans Move 13 Actu.
Alex Nassar.
Move 13 Actu.
Notre invité du jour, il est créateur de jeux vidéo The Nomad Soul, Fahrenheit, Heavy Rain ou encore Beyond Two Souls. C'est lui et son studio Quantic Dream. Son nouveau blockbuster sort demain sur PlayStation 4. Ça s'appelle Detroit Become Human. Ça va, je le dis bien?
Oui, j'ai essayé. On peut dire Détroit aussi.
On peut d'accord. Ça s'appelle
plus simple.
Détroit devenir humain. Voilà, c'est l'un des jeux.
C'est moins bien, tiens.
Ça marche moins bien. L'un des jeux les plus attendus de l'année. David Cage est dans Move 13 Actu. Bonjour, David. David, comment on dit?
Oh, David Cage.
Non, on dit à la française. Merci d'être avec nous.
Bah, c'est un plaisir, merci de m'inviter.
Alors, on sent comment à quelques heures de la sortie de son jeu, on est tendu un peu?
Un peu. Oui, un peu, juste un peu. C'est juste 4 ans de travail qui vont arriver là dans les mains des joueurs dans quelques heures.
Parce qu'on sait dès le premier jour que son jeu est un succès, c'est comme au cinéma où il faut attendre un petit peu quand même.
On sait, j'irais dans la première semaine, on a une idée de tendance. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les précommandes. Les joueurs peuvent pré-acheter le jeu avant qu'il sorte. Donc, ça donne un premier indicateur. Mais ensuite, on sait assez vite quelle est la tendance.
Alors, ça raconte quoi Detroit Become Human? Fais-nous le pitch un peu.
Alors, Detroit, c'est une histoire qui se passe dans un futur proche, dans 20 ans. On est en 2038 dans la ville de Detroit et dans cet univers, il y a des androïdes qui nous ressemblent exactement, qui ressemblent à des êtres humains, qui parlent, qui bougent exactement comme nous, mais qui sont traités comme des machines, sont des assistants, on les utilise pour remplacer les humains chaque fois qu'on peut. Et on va contrôler 3 d'entre eux, 3 androïdes, au moment quelque part où ils prennent conscience et où ils commencent à ressentir des émotions et ils vont demander des droits et se battre pour être acceptés. Et avoir leur liberté.
Et tout se passe pas comme prévu, bien sûr.
Évidemment.
On s'écoute un extrait de la bande-annonce de Detroit.
Nous n'avons pas choisi d'être différents.
Nous n'avons pas choisi de ressentir la douleur.
Ou l'amour.
Ou la peur.
Nous n'avons pas choisi de nous soulever, de trahir nos maîtres.
C'était votre choix.
Max, le gamer de Move 13 Actu, t'y as joué toi à Detroit?
Moi j'ai joué depuis à peu près une petite semaine. Donc c'est un jeu d'anticipation, science-fiction. Impossible de pas repérer évidemment quelques influences en jouant. David, je vais te donner des titres de films et puis tu me dis si oui ou non, ça t'a inspiré pour créer ce jeu. Blade Runner.
Pas forcément directement, mais c'est effectivement un film qui est dans la culture de tous les gens de ma génération et évidemment qui a marqué tout le monde.
Terminator.
C'est un film que j'ai vu comme tout le monde. Je sais pas si c'est une influence vraiment sur Detroit.
Ok. iRobot.
iRobot, c'est un. Oui, il y a une problématique de la vie Android, de l'intelligence artificielle qui exige la liberté, qui veut des droits, qui est certainement commun, mais on essayait d'avoir un traitement qui est très très différent dans Detroit.
Ghost in the Shell.
Ah, j'aime beaucoup cette référence.
On touche quelque chose. Parce que je sais que tu cites beaucoup Kurzweil, les génies de l'intelligence artificielle, etc. Mais non, j'imagine que la science-fiction, les romans, Asimov, tous ces trucs-là, ça a dû aussi forcément te parler.
Oui, surtout ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction, qui sont les auteurs des années 50-60, qui sont les K. Dick, les Gibson un peu plus tard, mais Ray Bradbury, etc. Ce sont des gens qui font partie de ma culture.
On a perdu Greg.
Mais je découvre un univers.
Ah ouais, attends. Oui, Guérin.
Enfin, venir des droïdes qui demandent des droits. C'est la République en marche, non? C'est un peu la France des.
Je sais pas, c'est enfin, peut-être une influence.
Alors, je te laisse la responsabilité de tes déclarations.
je m'engage.
Oh, il est prend, hein, il n'y a pas de. S'en fout.
Dernier film, Max, qui aurait pu influencer le jeu.
Bienvenue chez les ch'tis. Non.
Ah, bah, là, attends, là, ouais, non. C'est assez flagrant.
Non, bien vu. Non.
Donne-moi des droits, Bilout.
Bon, Détroit, donc c'est 4 ans de travail pour 200 personnes, c'est bien ça?
C'est ça, oui.
Beaucoup de comédiens, comédiennes aussi?
Absolument, plus de 300 acteurs, 360 jours de tournage, un script de 4000 à 5000 pages par rapport à un script de film qui en fait une centaine en général. Mmh. C'est quasiment 20 films en fait.
En termes de volume.
Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le jeu est totalement non linéaire, c'est-à-dire c'est le joueur, à travers ses choix, à travers ses décisions, qui va raconter sa propre histoire. Donc on raconte pas une seule histoire, mais on en raconte énormément. Donc il y a une énorme arborescence, et c'est le joueur qui raconte et qui décide ce qui va se passer.
Oui, d'ailleurs, pour la première fois dans un de tes jeux, t'as décidé avec ta team de montrer l'arborescence à la fin de chaque séquence.
C'est ça.
De tous les choix qui ont été faits par le joueur, mais de tous les choix qui n'ont pas été faits et qui sont encore possibles si on revient à l'arrière.
Bah parce qu'avant on faisait la même chose, mais on le montrait pas. Donc les gens se disaient, bah, c'était un jeu linéaire finalement. Ouais. Les choix que j'ai faits, c'était les choix que j'étais censé faire. Mm-hmm. Et là, on a vraiment voulu représenter ça visuellement à l'écran pour leur dire, voilà l'arborescence, on vous cache rien. Et vous allez voir le chemin que vous avez parcouru dans cette arborescence, mais aussi toutes les branches de l'histoire que vous n'avez pas débranchées. Et l'idée, évidemment, de donner envie aux joueurs de revenir, de rejouer, de recommencer pour voir et tout débloquer.
Évidemment. 200 personnes, donc 4 ans de travail, 300 comédiens, ça paraît monstrueux, mais c'est pas si énorme en fait aujourd'hui pour un jeu vidéo aussi ambitieux.
Alors c'est pas forcément énorme en termes de taille aujourd'hui, en termes de taille d'équipe en tout cas. Il y a des jeux qui se font à 500, 600, 1000 personnes.
1000 personnes, les équipes de 1000 personnes
sont
des jeux.
Qui sont souvent réparties dans plusieurs studios à travers le monde. Donc c'est vraiment extrêmement complexe, mais c'est pas vraiment ce qu'on fait. Nous on se voit un peu plus comme des artisans du jeu vidéo, même si on est 200. Mais par contre, en termes d'ampleur et de scope du jeu, je crois que c'est la première fois qu'il y a un jeu qui a pris autant de temps à être tourné avec un cast de cette ampleur-là. Donc voilà, c'est un peu un mélange des deux. On a essayé de faire beaucoup avec une équipe, effectivement, qui a taille humaine.
C'est comme nous, hein, Move très actuel, 200 personnes.
Une équipe à taille humaine.
Bah oui.
Est-ce que tu es d'accord quand on dit que tu fais des jeux d'auteur?
Ah, je sais pas ce que ça veut dire.
Le terme, oui.
Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui me met toujours un peu mal à l'aise.
C'est très français.
C'est assez français, et puis on sait jamais si c'est un compliment ou pas.
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Express, un jour, t'as surnommé le Jean-Luc Godard du Pixel.
Oui.
Alors, ça doit faire bizarre.
J'ai décidé que c'était un compliment.
Oui, non, mais je pense qu'il faut le prendre comme un compliment. Oui, c'est mieux.
Non, mais oui.
Oh, c'est comme le petit Mozart des manettes.
Enfin, alors j'aurais préféré ça.
D'accord.
Bon, cela dit, on parle régulièrement de jeux à la David Cage, pour ce que ça vaut. Est-ce qu'il y a un style David Cage selon toi, et comment est-ce que tu vois ça?
Moi, je suis très attaché à l'émotion dans le jeu vidéo. Je suis très intéressé à ce qui se passe dans la tête du joueur quand il joue, plus que ce qui se passe sur ses pouces, honnêtement. Mmh. Et voilà, être rapide avec ses pouces, c'est cool, mais c'est pas forcément le genre d'expérience que je revendique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion. Et avec Détroit, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le sens. C'est de montrer qu'avec un jeu vidéo, on pouvait parler de sujets graves, de sujets lourds. C'est un jeu qui est aussi sur la ségrégation, qui est sur le racisme, sur les droits civiques, sur un certain nombre de choses, être accepté pour ce qu'on est. Ce sont des choses qui sont assez importantes, assez graves. Et on voulait montrer qu'un jeu était capable de porter ça aussi.
Et c'est vrai qu'il y a assez peu de jeux quand même qui portent ce genre de valeurs et qui posent ce genre de questions. Est-ce que de ce point de vue-là, du coup, on peut parler de jeu d'auteur? En tout cas, de jeu avec un propos.
Ah, il y a un sens. Oui, je préfère ça en fait.
D'accord.
C'est un jeu avec un propos, en tout cas, on a essayé.
Pour tes précédents jeux, tu as bossé avec David Bowie, Ellen Page, Willem Dafoe, etc. Avec quel comédien ou comédienne tu rêves aujourd'hui de travailler?
Oh, il y en a tellement qui sont extraordinairement talentueux et pas forcément, je cherche pas forcément les gens connus. C'est pas parce qu'on est célèbre qu'on a nécessairement le talent, en tout cas, qui collerait chez nous. Nous, on cherche des acteurs avant tout qui respectent notre média, c'est-à-dire qui viennent pas en se disant je vais cachetonner, je vais prendre un chèque et ça va être facile, mais des gens qui respectent le média, qui viennent pour bosser, apporter leur talent et qui sont aussi exigeants sur un jeu que s'ils étaient sur un film ou sur une série.
J'ai quelques dispo ainsi.
Greg, il a un peu de temps, passé 13h30, il a un peu de temps. Oui,
j'allais dire, j'étais assez séduit par l'idée, on veut pas que des comédiens connus, je me suis dit, oh, des petits mecs qui font des blagues à la radio, ça marche. Puis après, des gens qui veulent pas que le cachet, moi, je suis assez séduit.
Il n'y a pas un comédien ou une comédienne de avec qui tu rêves vraiment de travailler sans même rentrer dans ce genre de...
Il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup quelqu'un comme Woody Harrelson, par exemple, qui est un comédien extraordinaire.
Très joli.
Et puis voilà. Puis il y en a d'autres. Moi, je suis aussi un grand fan de Johnny Depp, de Sean Penn, de ces acteurs avec une personnalité intéressante. Mais en tout cas, sur Détroit, nous, on a travaillé avec des gens. Alors, il y a Jesse Williams qui travaille dans Grey's Anatomy, qui est un des comédiens de cette série. Mais on a travaillé avec des comédiens extraordinaires que vous connaissez peut-être pas. Une jeune femme qui s'appelle s'appelle Valérie Curie, qui joue le rôle de Kara, un jeune comédien qui s'appelle Brian Descartes, et qui sont pas célèbres, mais qui ont un talent absolument qui nous a bluffé.
J'ai trouvé ça, c'est juste la petite parenthèse un peu geek, mais ça m'a fait rigoler quand j'ai entendu Descartes, sachant que c'est un jeu qui parle d'intelligence artificielle.
Oui, on en a beaucoup ri aussi. Ouais.
Voilà, ah ouais, c'est juste
c'est
pour la...
Non,
c'est
la blague pour les geeks.
Je précise que c'est la vanne pour les geeks. Avant l'émission, je t'ai posé la question, une petite colle, quel est ton jeu préféré de tous les temps? Tu m'as répondu ça.
Final round. Fight.
Tekken. Pourquoi Tekken?
C'est surprenant comme réponse quand même.
Oui,
de ta part.
Je sais. Mais je suis pas un garçon sectaire.
C'est un jeu de baston,
en fait,
hein, Tekken. Donc vous n'avez pas tout à fait un jeu d'auteur, quoi.
Mais c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué et j'ai suivi toute la série et je suis un immense fan. Alors pour ceux qui connaissent, je joue Paul Phoenix.
Vous allez demander.
Je réponds à l'avance.
Moi, je suis Team Lai Wulong.
D'accord. Pas mal aussi.
Pas mal. Ton film préféré? Lise me regarde complètement perdu. Oh
bah
mon
alors,
Dieu.
Lise, enfin.
Le Grand Bleu.
Star Wars, bien sûr.
Le Grand Bleu.
2001, le Odyssée de l'espace.
Je suis un immense fan de Stanley Kubrick. Ouais. Ce type est un génie.
C'est marrant, mais on s'en serait douté quand même. Il y a des trucs comme ça qui nous laissent imaginer. Que, ouais.
Et 2001, mais quel film, quel claque. Ouais. C'est un film qui est parfois difficile à regarder parce qu'il est long, il est lent. Mais c'est un film qui laisse une impression. Enfin, voilà, je l'ai vu la première fois il y a 30 ans.
Oh, c'est archi cool,
j'y pense toujours. Quoi. C'est...
Ta série préférée?
Black Mirror.
C'est beaucoup plus technique, hein. Battlestar Galactica, c'est ce que tu m'as répondu.
Absolument.
Pourquoi ça?
C'est une immense série qui parle du futur de l'humanité. Et je trouvais que c'était une des toutes premières séries de SF. Alors évidemment après les Star Trek et les Cosmos 1999, mais c'était une des séries récentes. Et je trouvais qu'il y avait une thématique qui était gérée de manière très très intéressante. Tout était filmé en caméra épaule. Il y avait un plan séquence incroyable dans le premier épisode. Enfin voilà, c'est une série qui pour des raisons artistiques et d'écriture, moi m'a beaucoup marqué.
Sinon, quel est le jeu dont tu es le plus fier, dont évidemment les jeux sur lesquels tu as bossé?
Oh bah c'est toujours le dernier qui est le plus beau,
oui,
évidemment.
Des trois. Mais en même temps, moi je suis extrêmement fier de Beyond, qui est un jeu moi qui m'a en tout cas en tant que réalisateur m'a beaucoup
donc
marqué.
Beyond c'était le précédent,
c'était
avec
le précédent.
Mais
des trois, je pense, c'est de loin le meilleur jeu qu'on ait produit.
Ok, évidemment le dernier. Donc contrairement à ce qui se passe au cinéma ou dans la musique, le grand public connaît rarement le nom des créateurs de jeux vidéo.
C'est vrai.
En dehors de quelques exceptions comme Shigeru Miyamoto, je précise pour Lise, hein, c'est le papa de Mario, de Zelda, Hideo Kojima, Metal Gear Solid, ou Michel Ancel, qui est un des grands créateurs de jeux vidéo en France.
Rayman,
par exemple, les lapins crétins, c'est lui. David, tu fais partie de ce petit club assez select, mais finalement c'est à peu près tout. On peut pas en citer énormément de ces créateurs connus ou du grand public. Cette quasi absence de starification des créateurs de jeux vidéo, ça vient de quoi d'après toi?
Oh, il y a plusieurs raisons, je crois. D'abord, il y a beaucoup de jeux qui sont créés par des équipes et on n'identifie pas forcément une voix. Alors, c'est le cas aussi chez nous, mais c'est vrai que communiquer, bah, c'est plus simple quand c'est une personne qui parle. Mais derrière chaque créateur, il faut pas oublier qu'il y a une équipe et que sans ces équipes-là et sans leur talent, bah, il y aurait juste pas de jeu. Donc voilà. Et puis, je sais pas si c'est ce que les gens veulent forcément des stars aujourd'hui du jeu vidéo.
Oui, non, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ceux qui créent des jeux vidéo, ils veulent forcément devenir des rockstars? J'ai pas
l'impression. Non, mais c'est vrai que c'est plus facile pour un film, par exemple, parce que même si le réalisateur est pas forcément connu, t'as un acteur qui va venir faire la promo, qui va venir en parler, et du coup t'as une incarnation, t'as un être humain,
c'est
qui
ça
vient représenter,
c'est ça, pour en parler ouais. Souvent il faut une voix, donc c'est un peu ma voix qu'on entend, mais encore une fois il y a une équipe derrière. C'est pas non plus un statut qu'on recherche, enfin en tout cas en ce qui me concerne, que je recherche avidement. Voilà, moi j'aime beaucoup parler avec les gens, j'aime beaucoup rencontrer les joueurs, j'aime beaucoup qu'ils me parlent de leur expérience à jouer à nos jeux, et voilà, ça m'intéresse maintenant. Être une star avec des lunettes
après,
noires,
machin, c'est pas...
Non, ça c'est pour Greg, ça.
Non, mais après c'est vrai,
j'attends un rôle. Tu seras prêt à en parler pour partout.
Bah oui. J'imagine que le fait aussi en ce qui te concerne de vraiment de gérer absolument tout ce qu'il y a à gérer sur un jeu vidéo à partir de l'écriture, forcément ça te met beaucoup en avant, contrairement peut-être à d'autres créateurs qui seraient un petit peu plus effacés derrière l'équipe, j'imagine.
Encore une fois, je gère pas tout, hein. Il y a toute une équipe derrière,
entendu,
de gens talentueux,
évidemment.
Mais j'ai le rôle d'un réalisateur sur un film, c'est-à-dire je suis responsable d'une certaine manière du résultat final, quand il est bien et quand il est pas bien, c'est un peu pour ma pomme.
Ah oui, forcément.
Bon, comme tout le monde, t'as des haters, hein, des gens qui kiffent pas trop tes jeux, ta démarche, on te reproche parfois de faire des films interactifs plutôt que du jeu vidéo, en gros de faire des jeux qui se regardent plutôt que de jeux qui se jouent, paradoxalement. Tu leur réponds quoi, toi, à ces détracteurs?
Je leur réponds, venez jouer à Détroit, venez regarder. C'est vraiment un jeu dans lequel on est vraiment en contrôle du personnage en permanence. Mmh. Souvent, les gens qui ont des a priori ou des idées préconçues sur les jeux narratifs, en se disant, ah, c'est des jeux qu'on regarde, on appuie sur un bouton une fois toutes les heures. C'est pas du tout le genre d'expérience qu'on fait. Et voilà, il suffit de, il y a une démo d'ailleurs gratuite sur le PSN qu'on peut jouer pour tester soi-même le jeu, qui donne une bonne idée de à quel point ces critiques sont, à mon sens, pas vraiment fondées. Mais encore une fois, des jeux, il y en a pour tout le monde. Il y en a vraiment une large gamme de jeux pour tous les goûts. Ça va du e-sport jusqu'au jeu, pour passer le temps, jusqu'à des jeux narratifs. Et nous, ce qu'on défend, c'est juste la diversité du jeu vidéo et le droit de créer des expériences différentes pour des gens qui ont des attentes différentes.
Ouais, clairement, c'est pas toi qui réalisera le prochain FIFA ou c'est pas ta
gamme. Non, c'est pas mon trip, mais c'est des jeux que j'apprécie énormément, beaucoup, évidemment.
Réaliser un film, est-ce que tu y as déjà pensé, du coup ?
Oui, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour ce faire, mais je reste passionné par le média du jeu vidéo parce que c'est le seul média sur lequel on crée quelque chose avec le public. C'est pas comme dans un film, on va shooter le film, les gens peuvent le regarder, mais ils peuvent pas changer ce qui se passe. Mmh. Nous, on crée des histoires, mais qu'on raconte ensemble. Donc là, dans quelques heures, demain, le jeu sort, il va y avoir des centaines de milliers, des millions de personnes qui vont raconter leur histoire et on va la raconter ensemble d'une certaine manière. Et ça, c'est absolument fascinant. Mmh.
Détroit Become Human dispo dès demain sur PS4. Tu restes avec nous, David ?
Ah, absolument, avec plaisir.
On a encore plein de questions à te poser. 13-15 sur Move.
Move 13 Actu.
Jusqu'à 13h30. Move.
Le focus de Move 13 Actu, tous les jours un sujet a priori compliqué expliqué en seulement 3 minutes. Aujourd'hui, Lise, le RGPD. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est le règlement général sur la protection des données, Alex, voyons. Il oblige les entreprises qui collectent nos données perso à mieux les protéger. Alors, le RGPD entre en vigueur dès demain dans toute l'Union européenne.
D'accord, c'est pour ça qu'on reçoit plein de mails en ce moment.
Oui, vous avez dû en recevoir des dizaines de mails de Google, Uber, Spotify ou autres, des mails que vous n'avez évidemment pas lus.
Bah non, forcément.
Ces grosses boîtes ne sont pas devenues vertueuses, hein, elles sont juste obligées de faire semblant.
Donc, le RGPD, ça force juste les entreprises à nous envoyer des mails pour nous dire qu'ils font gaffe à nos données perso.
Voilà.
Ils disent quoi, ces mails ?
Alors, je sais pas trop, vu que je les ai tous supprimés, moi aussi. Alors, j'ai quand même retrouvé enfoui dans ma corbeille celui que m'a envoyé Spotify. Il explique que leur politique de confidentialité change avec le RGPD. Désormais, la plateforme de streaming sera plus transparente sur nos droits en matière de vie privée et la façon d'exercer ses droits, sur la façon dont nos données perso sont recueillies, traitées, utilisées, partagées et même protégées.
D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par données perso ?
Bah, c'est une donnée qui permet de t'identifier directement ou indirectement. Ça peut être ton nom, ton adresse, ton mail, ton numéro de téléphone, de sécu, ton âge, ton sexe ou une photo de toi, par exemple.
Okay.
Et on se rend compte qu'on donne ces infos à tous les sites tout le temps.
D'accord, et donc à partir de demain, les sociétés collecteront toujours nos données, mais avec notre accord.
Voilà, c'est ça.
Bien ça.
Ouais, c'est ça. Dès qu'une donnée perso sera collectée, l'internaute devra donner son consentement écrit, clair et explicite et plus coché des CGU sans les lire.
Okay.
Alors des mentions légales devront expliquer pourquoi ces données sont collectées, comment elles seront utilisées et pendant combien de temps elles seront conservées. Et à tout moment, vous pourrez d'ailleurs demander à Google, Facebook, Apple ou encore Amazon de télécharger l'intégralité des données qu'ils possèdent sur vous.
C'est bien ça. Ouais. Et ça concerne toutes les boîtes. Hein.
Ouais, que ce soit Facebook ou une TPE, tout le monde est concerné. Alors dans les grosses boîtes, ils ont des services juridique pour faire ça. Pour une petite boîte, c'est quand même beaucoup plus compliqué à mettre en place.
Alors, qu'est-ce que risquent les boîtes qui ne se mettent pas en règle avec le RGPD ?
Eh bah, bien, de grosses amendes. Le texte prévoit des amendes de 10 à 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, de 2 à 4% de son chiffre d'affaires annuel mondial, sachant que c'est le montant le plus élevé qui sera retenu.
Ah oui, d'accord. Donc, ça rigole pas du tout. David, le RGPD, c'est une bonne idée selon toi ?
Le fait de réglementer
comme ça la circulation des données personnelles.
Et il faut faire quelque chose sur la protection des données privées, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus et beaucoup de choses qui étaient faites à l'insu des gens, et je pense que c'est effectivement une bonne décision.
Bon, ça démarre demain en tout cas ?
Ouais, demain.
On suivra ça, parce que ça va être un petit peu la Zumba quand même.
Peut-être qu'on va arrêter de recevoir des mails brossons, mais je sais pas.
Ouais, on verra. On suivra la mise en place du RGPD à partir de demain. Merci beaucoup, Lise, pour ce focus. L'actu people et politique du moment, parce que oui, les politiques sont aussi des people. On a qui, Guérane, aujourd'hui ?
Eh bien, on a des députés qui, dans un pays avec presque 10% de chômage, aimeraient, eux, s'attaquer à la vraie question de la France, la viennoiserie. Et ça, c'est important qu'on en parle.
C'est très important. La Zumba Actu Pipolitique, c'est dans une minute. Mais d'abord, Greg a une info pour nous, 13-18 sur Move.
Du lundi au vendredi, Move 13 Actu.
Le sachiez-tu de Greg, hein, tous les jours, une info totalement inutile, une info qui sert à rien et qui concerne notre invité aujourd'hui.
Absolument.
David Cage, on t'écoute, Greg.
Eh bien, David Cage n'est pas le frère de Nicolas Cage.
Ah, merci, Greg.
Ni de Luke Cage.
Ah,
c'est pas la même branche.
C'est vraiment de l'info inutile. Hein.
Mais c'est un pseudo, surtout. David Cage, c'est pas ton vrai nom, c'est David de Grutola.
Absolument, c'est un nom italien. Je suis très fier de mes ancêtres italiens. Mais il se trouve que quand j'ai commencé à travailler avec des anglo-saxons notamment, c'était un petit peu compliqué. Donc j'en ai eu tellement marre de voir mon nom nom écorché à tort et à travers. Qu'à un moment, j'ai dit, je vais m'appeler Cage. Et puis, il y en a encore qui m'appellent parfois Nicolas Cage ou qui arrivent à se tromper dans le nom. Donc, je sais pas comment faut que je m'appelle. Mais voilà.
Est-ce que trouvé. C'était simple, en fait, Cage, c'est pour ça?
Oui, c'était simple. Voilà. Et puis, surtout, ça fonctionnait avec les éditeurs avec qui je travaillais.
Guérin aussi, t'as un pseudo, toi?
Oui, c'est une Guérin. Je me suis dit, je prends un pseudo hyper chiant à prononcer.
Non, le problème, c'est que Guérin, c'est, lui, c'est son vrai nom. Merci beaucoup, Greg. On te retrouve pour le trash talk du jour, hein, consacré encore à Adrien Rabiot.
Ouais, le joueur de 23 ans du PSG qui figurait dans la liste des réservistes de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, un statut qu'il a refusé. Et grâce à Didier Deschamps, on sait exactement comment s'est passé ce refus. Tu vas voir, c'est très marrant et en même temps très gênant pour Rabiot.
Oui, c'est très gênant. Ce sera dans le trash talk du jour.
Du lundi au vendredi.
Move très actu. Move.
Jusqu'à 13h30.
13h19 sur Move, c'est l'heure de la Zumbactu de Guérin, une Zumbactu engagée, une Zumbactu qui dénonce, mais en léger. C'est la Zumbactu politique, juste après, un mot de notre sponsor, bien sûr.
La Zumbactu vous est offerte par Emmanuel Macrout, la marque de pâtisserie orientale en ligne pour casser son ramadan de manière disruptive. Emmanuel Macrout, l'islam connecté et pas trop sucré.
T'es très sur le business du ramadan en ce moment.
Bah oui. Ah bah c'est l'actu.
C'est l'actu, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On démarre cette Zumbactu politique avec des députés qui proposent une loi assez chelou.
Oui, ils sont 10, des élus du parti Les Républicains. Ils ont décidé de s'attaquer au vrai problème en déposant un amendement pour reconnaître dans la loi le mot chocolatine, hein, le pain au chocolat du Sud-Ouest. Et c'est même pas une vanne, ils ont des arguments. Ils disent vouloir protéger une expression populaire et un savoir-faire local. Mais c'est pas des pandas. C'est des pains au chocolat, ils sont pas en danger. Il y a pas de braconniers qui mettent des pieds jaloux dans les boulangeries pour chasser illégalement des viennoiseries.
Non, 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 pas
ils
ça.
Vont bien, hein, calmez-vous. Ceux qui veulent dire chocolatine, ils le disent. On va pas faire une loi, c'est comme grec et kebab. On va dire, on fait ce qu'on veut, les mecs.
David, t'es quoi, t'es team pain au chocolat ou team chocolatine?
Pain au chocolat.
Bah ouais, ah
oui. Farouchement normal, quoi.
On relance le débat. Non,
non, non, non, non. En plus, on est tous d'accord ici.
On continue avec un petit point Macron.
Quelle semaine pour Manu. Mardi, il annonce qu'il va sauver les banlieues avec des stages de troisième. Hier, il a bouffé avec Zuckerberg et la moitié de la Silicon Valley pour le mettre un coup de pression. Et aujourd'hui, il est en Russie. Le mec, c'est Puff Daddy. Tout va très vite chez lui.
Mais pourquoi il est en Russie alors?
Bah pour reprendre un dialogue difficile avec Vladimir Poutine, parce qu'après avoir zouké avec Trump, je crois que la Russie le laisse un peu en lu. Dès quand Manu appelle Vlados, il y a pas de réseau, c'est comme ça, vous passez sous un tunnel. J'imagine que Macron expliquera sa stratégie demain soir, vu qu'il sera en interview exclusive sur BFM TV, son nouveau média officiel. Il va pas sur France 2 parce que depuis sa dernière interview chez Laurent Delahousse, c'était tellement lèche-cul, c'est classé X maintenant. Le replay, il est sur Jackie et Michel. Ils l'ont enlevé de plus, direct. Alors, le journal de 20h, c'est trop graphique. Hein, les gens, ça choque, les gens.
Elle t'a marqué cette interview,
oui.
Hein, de Laurent Delahousse, qui fait visiter le bureau. On continue avec un nouveau gouvernement en Italie.
L'Italie a enfin trouvé un Premier ministre, plus de 2 mois après les élections législatives. On dirait dans Koh-Lanta quand il galère pour trouver le collier d'immunité. Toute la saison. Et c'est un inconnu qui a été intronisé Premier ministre, s'appelle Giuseppe Conte. Et suite à des négociations entre les deux grands vainqueurs des urnes, Matteo Salvini, du parti de la Ligue, et Luigi Di Maio, du mouvement Cinque Stelle. Alors je vais pas vous mentir, je connais pas la politique italienne, mais ce que je viens de vous dire, j'ai l'impression de lire un scénario de Gomorrah. Voilà, surtout que pour les experts, ce nouveau gouvernement est déjà en sursis alors qu'il existe depuis aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que Jenna et Chiro vont arriver pour buter Conte. Je les vois débarquer au Parlement européen avec des t-shirts dragon Philippe Plein en disant « Allô, j'ta la mierda des sangues bleus !» Voilà, c'est mon analyse. Ça ne servait à rien et vivement la saison 4.
Il faut suivre Gomorrah, hein, pour la
évidemment,
comprendre,
évidemment,
celle-là, elle est technique. Mais vivement la saison 4, ça c'est vrai. Et on termine ce point sur l'actu politique du moment avec Donald Trump qui a encore des problèmes avec Twitter.
La justice a décidé que le président américain n'avait plus le droit de bloquer les gens qui disent du mal de lui sur Twitter.
Ah, c'est bien ça.
Voilà, c'est la liberté d'expression. Alors c'est bien, mais est-ce que les gens qui l'insultent peuvent le bloquer lui? C'est lui le problème. C'est lui le troll qui insulte les gens. Mais faut réfléchir à tout, hein, c'est à 360 degrés.
Ah non, mais c'est important. Hein. Merci beaucoup, Guérin, pour ce point très complet, hein, sur l'actu politique du moment. T'es sur les réseaux, toi, David?
Non, pas du tout.
J'ai vu que il y avait un compte Twitter à ton nom, mais c'est pas le tien.
C'est pas le mien. D'accord. Non, je suis pas du tout sur les réseaux.
Et il y a un autre compte Twitter qui s'appelle Fake David Cage.
Ouais, bah ça fait partie des problèmes des réseaux sociaux.
C'est une parodie, mais du coup, tu fais pas les démarches pour les faire supprimer, tout ça, tu t'en fiches un peu.
C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on les fait supprimer par Twitter ou par Facebook, et puis en fait il faut démontrer qu'on est bien David Cage, mais moi c'est pas mon vrai nom.
Ah oui, c'est vrai.
Envoyez-moi une photo de votre passeport et puis voilà, et puis surtout on les fait supprimer, ils réapparaissent. Il y a des gens qui ont rien d'autre à faire de leur vie, donc je les laisse, il faut leur permettre d'avoir un sens.
Mais pourquoi en fait tu veux pas apparaître sur les réseaux sociaux, en fait pourquoi je comprends pas là? prends pas la parole.
Juste, j'ai juste pas le temps, honnêtement. Enfin,
oh putain, il a le droit.
Non, non, c'est juste une question, je suis curieux en fait.
Ouais, et puis les réseaux sociaux, y a, c'est une très bonne intention parce que parler avec les gens, c'est génial. Ah ouais. Bah voilà, c'est aussi un peu compliqué parfois les réseaux sociaux et voilà, il y a beaucoup de gens qui s'en retirent en ce moment pour des raisons qu'on peut comprendre.
Bah, on en a parlé du RGPD notamment avec lise des données personnelles, Facebook, tout ça. Et sinon, tu t'intéresses forcément à l'actu politique. T'as déjà rencontré Emmanuel Macron ?
Non.
Parce que je crois me souvenir que tu avais rencontré Fleur Pellerin.
Oui.
Donc c'était le gouvernement précédent, c'était sous François Hollande. Oui. Mais Macron, tu l'as jamais rencontré ?
Non, non, pas encore.
D'accord. Et sinon, tu es aussi chevalier de la Légion d'honneur depuis 2014.
C'est ça.
Et tu ne portes pas la médaille sur toi tous les jours ?
Non, pas tous les jours.
Je trouve ça assez scandaleux quand même. Maître Gims qui est accusé de plagiat, Guérin.
Oui, bah, il va lui falloir un avocat parce que malgré son nom, Maître Gims, il n'a pas passé le barreau.
Oh là là.
Oui, j'aime ma vanne.
Encore.
Et alors, c'est légal. Je ne rendrai pas l'argent.
Voilà. Ce sera dans les Gossip Pop, la nouvelle affaire, Maître Gims, juste après le trash talk 13-24 sur Move.
13h, 13h30.
Move très actu. Move. Alex Nassar.
Le trash talk de Move très actu, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Greg, on n'en sait plus sur l'affaire Rabiot.
Ouais, mais avant de commencer, moi aussi j'ai besoin de bouffer et d'acheter des doudounes sans manches. Donc moi aussi j'ai sponsorisé le trash talk qui vous est offert par notre partenaire du jour.
Les terres de Cavaillon, à 25 km d'Avignon, la Mecque du melon, fruit d'été par excellence.
Bah
sa
oui.
saison n'est pas encore terminée.
Quoi de mieux qu'une marque de melon pour sponsoriser le Rabiogate ? Petit rappel des faits, Greg.
Jeudi dernier, sur le plateau du 20h de TF1, Didier Deschamps donne sa liste des 23 joueurs pour la Coupe du Monde. Principal enseignement, Adrien Rabiot, le joueur du PSG, n'y est pas. Il n'est que réserviste. On a d'ailleurs eu en exclu, pour Move 13 Actu, la réaction de Véronique Rabiot, qui est la maman d'Adrien et aussi son agent, grosse exclu.
Ah ben c'est bien
Adrien,
super pour
l'équipe de France.
Génial. Non merci. Oh, t'es vraiment un sale petit con hein.
Je suis pas sûr que ça soit passé comme ça, mais c'est vrai que ça aurait dû. Hein, là, il méritait quand même des bennes.
Si ça se trouve, c'était cas, Véro qui était
peut-être Véro dans cette vidéo qu'on adore ici. En tout cas, Rabiot a très très mal pris cette non-sélection.
Ouais, et il a fait savoir à Deschamps qu'il refusait ce statut de réserviste. En gros, il se barre en vacances sans attendre de savoir si un des 23 va se blesser avant la Coupe du Monde.
Alors, hier, on parlait d'une lettre que Rabiot aurait envoyée à la Fédé pour les prévenir de cette décision. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein.
Non, et on aurait dû s'en douter. Rabiot, c'est pas le joueur à faire des lettres manuscrites. Hein.
Ouais, non.
Pas, la vraie version de l'histoire, c'est Didier Deschamps qui l'a donné hier en conférence de presse.
C'est un mail qui m'est parvenu lundi en fin d'après-midi. J'ai pris connaissance du contenu du mail, bien évidemment, que Adrien a signé. Donc, je l'ai appelé, je lui ai envoyé un SMS pour avoir confirmation que c'était bien lui. On ne sait jamais par les temps qui courent. Et donc, il ne m'a pas répondu, mais j'ai eu la confirmation par mon responsable administratif que c'était bien lui qui l'avait envoyé.
Eh oui.
La vache.
Eh oui, Adrien a laissé Didier en lu.
Eh oui.
C'est quand même archi moche. Mais il y avait quoi dans le mail de Rabiot ?
Alors ça, je sais pas trop, mais certainement un truc du genre.
Wesh coach, balèque d'être réserviste. De toute façon, la Russie c'est de la merde. Moi je pars à Ibiza avec mes gars sûrs. Ambiance chicha, FIFA, playa. Allez, bonne chance.
J'extrapole un peu. Hein.
Oui.
Mais ça devait ressembler à ça à peu
oui,
près.
Oui, ça se tient. Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
C'est le correcteur automatique. Ça.
Ouais. Bien sûr. Bon, en tout cas, Deschamps, évidemment, l'a assez mal pris.
Il y a mis les formes, mais oui, en gros, Rabiot s'est tiré une balle dans le pied.
Il s'auto-exclut de lui-même. J'ose espérer qu'à travers certaines décisions comme celle-là, ça lui permettra de mûrir, de réfléchir. Je suis convaincu qu'il a fait une énorme erreur.
Une énorme erreur. Oui, Guérin.
S'auto-exclure de soi-même, ouais. C'est un sacré concept.
C'est pas mal. Il a du mal avec les X. Hein,
toujours un peu.
S'auto-exclu, c'est compliqué. Et cette affaire Rabiot a bien fait marrer un autre ancien joueur de l'équipe de France.
Oui, Franck Ribéry, qui a pris sa retraite internationale en 2015 et qui a tweeté ça.
Oh putain, je suis à Ibiza, on vient de m'appeler, il reste une place réserviste. Oh Didier, je suis prêt.
Avec plein de smileys, évidemment, des mots en italien. Alors pourquoi en italien, on ne sait pas.
Bah non, parce qu'il est à Ibiza.
Oui, bah voilà, il met ça en Italie.
C'est Franck Ribéry, il faut pas non plus.
C'est au Brésil, le référent espagnol, mais
voilà. Bon, en tout cas, il a bien montré que c'était quand même pour déconner. 42 000 retweets quand même pour Ribéry qui risque de croiser Rabiot à Ibiza, coup en Italie. Hein.
Ah ouais, ah bah oui, Ibiza en Italie. On risque pas de le revoir tout de suite en bleu, le Duc. Hein.
Non, sa carrière internationale est peut-être même déjà terminée. À 23 ans, on peut dire que le Duc va l'avoir dans le HUC.
Oh non,
un peu de finesse.
C'est quoi, je vais valider par solidarité.
Un peu de finesse
mais
pour
tu sais très bien ce que j'en pense.
C'est dommage, c'était vachement bien.
Ah, tu t'es auto-exclu
ah ouais,
là.
Ouais, tu t'es auto-exclu.
De toi-même. David, t'as suivi un peu l'affaire Rabiot.
Ouais, absolument. Ouais, je suis fan du PSG aussi, donc j'ai suivi toute la saison.
C'est un peu
ce qui n'est pas toujours facile de suivre.
Ah non, non, c'est un sacerdoce d'être fan du PSG.
Ces deux dernières années,
je sais de quoi je parle. Donc le foot, tu suis, mais tu pourrais créer un jeu de sport un jour.
Non, je crois que c'est pas mon trip. Mais j'apprécie beaucoup par contre.
Merci Greg pour ce trash talk. On suivra la suite des aventures d'Adrien Rabiot.
Oui. Les vannes en Hux, c'est fini.
Ouais,
Post Malone, ça arrive avec Psycho featuring Ty Dolla $ign en moins de 3 minutes avec Morgan. Restez connectés sur Move.
Jusqu'à 13h30.
Move très actu.
Alex Nassar.
Les gossip hop de Move très actu, les infos hip-hop du jour inservies avec une côte de bœuf. Maître Gims adore ça, paraît-il. Il est un peu chaud, Gims, en ce moment, Guérin.
Le 20 avril 2018, sur les internets mondiaux a été postée une vidéo de type musical.
Oui.
Pour les non-connaisseurs, c'est ce qu'on appelle, en termes techniques, un clip. Dans lequel Maître Gims chante avec Vianney ceci. Plus de 38 millions de vues à ce jour, parmi lesquelles Charlotte Abramo, photographe et vidéaste, qui a réalisé un clip pour la journée du droit des femmes en Belgique, donc le 8 mars 2018. Et puis, elle était sur YouTube, elle a regardé Maître Gims, elle a vu sa vidéo, puis là, elle a dit...
C'est la même. Donc Gims a copié cet artiste belge, c'est ça, c'est le même clip.
Alors si on se fait aux captures d'écran qui circulent sur internet, on se dit c'est évident, Gims a plagié comme jamais. C'est excellent ça. Mais en fait c'est plus compliqué que ça.
Bah non, c'est pas compliqué, soit il a pompé, soit il a pas pompé, mais il y a pas de...
Doucement Nassar, doucement. Parce que pour me faire mon avis, j'ai fait un truc de ouf, une méthode assez niche dans le domaine de l'enquête d'internet. J'ai fait un truc de ouf, j'ai regardé les clips.
Malade.
Et bah franchement, c'est pas évident. Hein. La vidéo de Charlotte Abramo montre des femmes en gros plan d'origine différente, de tous les physiques, avec des défauts sur des couleurs pastel.
D'accord, et chez Gims?
Et bah il y a des gens différents qui sont montrés en gros plan sur des couleurs un peu pastel. Voilà, donc t'as un molosse bodybuildé, une infirmière, une actrice X et une dame genre mamie confiture. Et en fait, le molosse, il a des jambes amputées, l'actrice X, c'est une maman gâteau, et la mamie, c'est une espèce de punk nihiliste avec des tatouages partout. Okay. Genre, elle met de la bière dans tes frosties. Et ça colle avec le refrain. Faut pas se fier aux apparences. Et si on vous gêne, ben c'est là. Ça reste vachement dans la tête. Hein,
mais quand même, c'est le même principe, ce clip.
Oui, mais c'est ce qui pose problème. C'est 5 ou 6 plans avec le même code couleur. Parce qu'on peut aussi dire que Charlotte Abramo s'est inspirée de Stromae. C'est exactement le même style. Ou des 200 pubs Nike avec des portraits de femmes qui disent moi j'ai vécu des trucs durs et maintenant j'ai le Nike. Et puis Gims là-dedans, franchement il est pas pour grand chose. Il y a un réalisateur, je pense pas que Gims il ait tapé une vidéo journée femme Belgique idée inspi sur Google. Tu vois. Voilà, son clip, c'est vrai, c'est pas le plus original du monde. Il y a des similitudes, mais dans ce cas-là, prends n'importe quel clip d'Opera, le plan du mec en bas du bloc.
Oui.
Bah, tu l'as un peu partout.
C'est vrai.
Un t-shirt jaune, des fois, voilà, ça change un peu. Et puis, de toute façon, tout est inspiré de tout, on n'invente plus rien. Regarde Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy.
Merci beaucoup, Guérin. Toute l'actu hip-hop en temps réel, c'est évidemment sur move.fr. Merci, David Kiel, de nous
Merci
avoir accompagnés aujourd'hui.
Un plaisir.
Détroit Become Human, ça sort demain sur PS4. Et Max, tu le confirmes, c'est vachement bien.
C'est mortel, vraiment.
C'est un des jeux de l'année.
Vraiment, c'est super.
Allez-y, les yeux fermés, c'est évidemment validé par Move. Comment ça va, Morgan?
Salut Alex, salut tout le monde, bonjour Monsieur Cage.
Il est très poli.
Ouais, Morgan
est très bien élevé.
Toujours très, très respectueux.
Tu joues toi en plus pas mal?
Bah ouais, je joue pas mal. Mais je suis plus jeu de voiture et jeu de sport. Mais je veux bien tester
poli,
avec grand plaisir.
Non, mais tu peux le dire aussi.
Je le dis, je veux bien tester avec grand plaisir.
Il y a des voitures aussi dans Détroit.
Et bah avec grand plaisir. Moi, je veux
non, mais tu peux le dire côté Team Xbox. Dis-le.
Ouais, aussi un petit peu. Mais je suis très éclectique en termes de jeux vidéo. Pas de problème.
Et en musique aussi.
En musique, très éclectique.
Attendez, c'est pas un date Tinder là?
Laissez-nous tranquille un petit peu. Laisse-le rêver.
Ouais, mon gars, je j'écoute un peu de tout.
Ouais, carrément. Tranquillement. Simplement.
Vous voulez un petit blind test ou pas?
Oui.
On a le temps. 13h33 juste avant. Vous savez ce qui s'est passé un 24 mai? Le 24 mai 2001 en France, vous savez ce qui s'est passé ou pas?
2001?
Ouais, non. Bah il y a Stevie Boulet qui a dégagé du loft.
Ah ouais.
J'ai 17 ans.
Et bah c'est con parce qu'on s'en souvenait pas.
Excusez-moi. Moi j'étais pas né donc je peux pas.
C'est vrai, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Bon, petit blind test du coup, c'est une bonne nouvelle. Allez, c'est parti. Vous battez bien sûr pour le Golden Yuku évidemment, qui est entre les mains d'Alex Nasser en ce moment.
Alors,
monsieur Cage, le Golden Yuku, c'est le trophée à gagner pour le blind test.
Waouh.
Qui est en train de gagner en tout cas.
Tu repars avec ça. Il en a, si jamais tu gagnes le blind test, tu repars avec ça. C'est pas mal.
Est-ce que le champion en titre est prêt?
C'est moi.
C'est pour ça, il est tout content.
Il est fier.
Allez, non, je me gratte avec ce truc, il a gratté autre chose.
Allez, on cherche forcément des artistes ou des groupes qui ont vendu le plus de CD de titres single en France. Un 24 mai, on démarre avec 2005, c'est facile. Econ,
yes,
1-0 pour Greg. Econ, c'était
il
facile.
Prendre son bail là, tu
c'était très facile. Ça fait 1-0 pour Greg. L'ancien champion,
c'était rapide. Oui, bah, ça va, je me concentre.
C'était facile. On enchaîne avec 2010 hein, pour soutenir l'équipe de France de foot à la Coupe du
Johnny
Monde.
Johnny Hallyday.
Non. Il y avait ce son-là numéro 1 en France et c'est pas une connerie.
Ah bah, on arrête.
Ah bah, ouais.
Fred, tous, c'est François le Français.
C'est Bleu Blanc
Rouge.
Ah
oui,
c'est le son de
Omar
et Fred.
Chanson.
Bah ouais, résultat, l'équipe de France n'est pas descendue du bus.
Ouais.
Vous avez porté chance. Souvient, hein.
Et du coup, j'ai perdu.
Bah, ça fait quoi? Ça fait 2-0.
2-0,
mais il m'en reste.
Vas-y,
il m'en reste quelques-uns.
Ouais.
On enchaîne. Ouais. On enchaîne avec ce son. On est en 2012. Si là, vous trouvez, franchement, bravo.
Ah putain, oui.
Improuvable.
De la merde.
Takata. Le son fait Takata, mais le nom du groupe, c'est le même délire.
C'est pas loin.
C'est pas Takata.
Tikito.
Tikito.
C'est pas loin.
Takatu.
Non, c'était Takabro.
Ah,
mais il était pas loin, il était bravo.
Comment tu veux savoir ça?
Bah t'as qu'à arrêter le son aussi.
Le champion reste le champion. Allez champion, reprends ton Golden Yuku.
Voilà, le Golden Yuku, il est pour toi.
T'es honoré?
T'es fier? Je suis habitué.
Et bah voilà.
Il a repris, c'est comme l'année dernière, tu sais, Monaco qui fait champion, le PSG l'a repris cette année, il a récupéré sa propriété quoi.
Bravo champion. On se quitte avec les annives du jour.
Oui.
Qui a 38 piges à votre avis aujourd'hui?
Oh, le titre est Bresson. Hein,
lui
ouais. C'est lui qui a 38 ans.
Ouais. C'est cette personne.
T'as reconnu le gars ou pas?
C'est Mokobé?
Ouais, c'est Mokobé.
C'est Mokobé. Hein.
38 ouais. Balais, Moko.
Bon anniv à Mokobé aujourd'hui et bon anniv à Eric Cantona, je crois qu'il a une réaction.
Je leur pisse au cul.
Et bah voilà, bon anniv à lui. Merci, mon très d'actu. On vous retrouve demain.
Salut Morgan.
Bonne journée, monsieur Kate.